Géorgie, qui devient le 24e État à légaliser le cannabis médical, avec la Hollande, où là, enfin, ou en tout cas, les plus anti-prohibitionnistes ont été virés, quoi, sont partis du gouvernement, puisqu'ils ont démissionné.
Pas les plus anti, les plus prohibitionnistes.
Les plus prohibitionnistes, oui.
T'as dit les plus anti, t'as dit.
Ah, les plus anti, oui, non. Bref.
Les plus anti-cannabis sont partis.
Les plus anti-cannabis ou les plus prohibitionnistes ont démissionné. Ben, donc c'est une bonne chose, on va voir par qui ils vont être remplacés. Est-ce que ça sera moins bien ? On verra, mais peut-être que la Hollande va repartir dans la voie qu'elle avait tracée. Et puis après, on partira sur quelques petites brèves un peu diverses avec la BAC, où il y a encore quelques ripoux, donc une nouvelle affaire. Avec Choisy, où on apprendra qu'il faut faire attention à l'odeur de ces plantes, parce qu'elles peuvent être
odorantes.
Odorantes, et peuvent être trop senties par les voisins, qui peuvent aller jusqu'à appeler la marée chaussée, donc c'est pas bien, il faut faire attention. Après, je sais pas trop où on en sera dans l'émission, je sais pas si on parlera de l'utilisation du cannabis pour les CEP, donc les scléroses en plaques, ou pour le syndrome de la Tourette. On reviendra aussi peut-être sur Obama, qui donne des interviews assez particuliers. Ça serait bien qu'il fasse plus s'interviewer et qu'il fasse passer les choses dans les lois. Et puis sinon, on verra un petit peu différentes choses qui passent, mais on en discutera sans doute peu, ou on a déjà vaguement abordé la semaine dernière. Des trucs sur Constantin, l'anti-prohibitionniste français.
Que tu saches qui c'est qui parlait dans cet article d'Atlantico.
Voilà, tout à fait.
C'était lui, donc.
Après, on verra aussi la Belgique, où un ancien bâtonnier s'exprime, quelque chose d'assez intéressant. Et puis, peut-être d'autres petites choses diverses et variées. Et puis aussi, Ananda qui nous fait passer une petite brève... sur la culture du chanvre, mais vraiment textile, puisque c'est le seul autorisé en France. Et puis, malgré tout, et puis, il n'y a qu'un seul fournisseur qui n'a pas assez prévu et qui n'a prévu que 800 kilos de graines, alors qu'a priori, les besoins seraient plutôt autour de 1200 kilos de graines.
Non, 800 tonnes et les besoins 1200 tonnes. Voilà. Non, 800 kilos, t'imagines, c'est vraiment hyper léger, quoi.
800 tonnes, ça fait beaucoup.
Ah bah oui, 800 tonnes, oui, ça va, mais 800 kilos, c'est pas beaucoup.
D'accord. Bon, voilà, on reviendra un petit peu là-dessus. Et sur nos facteurs 3. Allez.
Musique.
Non, pas musique. T'as encore 2 secondes.
Je sais pas.
Rappelle l'adresse du cirque,
oui,
par exemple.
Oui, ok, si tu veux. Oui, bon, donc, Un grand merci à toutes celles et ceux qui sont venus au salon Technigro ce week-end, et certaines sont passées nous voir sur le stand et nous ont fait part à leurs félicitations par rapport à l'émission Cannabis Circus que nous animons tous les lundis soirs, et nous les remercions. Ça fait du bien, voilà, d'entendre ça, et voilà, ça nous fait plaisir, et on a été heureux de les voir sur le stand du cirque ce week-end, samedi, dimanche, à Technigro, double mixte à la doigt.
Où on a fait un beau stand où il n'y avait pas beaucoup de monde, mais bon, c'était beaucoup plus que l'année dernière, puisque la première année, c'était quand même quasiment le vide sidéral. Donc cette année, même si ce n'était pas une foule dense et serrée, il y avait du monde, et je pense que les organisateurs étaient assez contents du résultat.
Les organisateurs et les amoureux d'horticulture également. Tout type d'horticulture, je précise.
Voilà. Autre chose à dire sur ce salon ?
Non, là, j'ai plus le temps. Et tout à l'heure, je donnerai les coordonnées du cirque. Donc, musique maintenant.
Allez, musique.
Bienvenue au 3e congrès national des procureurs généraux sur les narcotiques et les drogues dangereuses.
C'est juste trompé de piste, en fait.
Chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer.
Yes.
On vient de s'écouter le groupe Percubaba et le morceau s'appelle Jamaican. Voilà, voilà. Donc, on va commencer avec l'Europe, avec l'Italie.
Tout à fait.
Voilà, plus particulièrement, plus précisément. Donc, voilà, les choses bougent en Italie. Elles ont déjà bougé il y a quelques mois. Alors que jusqu'à présent, alors c'était Berlusconi hein, qui avait classé le cannabis dans une espèce de classification au même titre que la cocaïne, l'héroïne, bref, tout un tas de produits, voilà. Et là, il y a quelques mois, le Parlement avait déclassifié en fait le cannabis et l'avait sorti de cette catégorie. Voilà. Alors là, il y a autre chose qui se passe actuellement. Il y a des politiciens, à peu près une soixantaine, qui sont emmenés par un sénateur qui s'appelle Benedetto della Vedova, qui donc voilà souhaite introduire une proposition de loi de légalisation du cannabis. Vous avez bien entendu, en Italie.
Et ce qui est nouveau, c'est que ça vient de plein de parties différentes, c'est ça ?
Exact. Visiblement, ça ne vient pas que de M. Benedetto della Vedova, qui lui est bien connu pour être un sénateur progressiste, qui a été député et ministre des Affaires étrangères, qui a longtemps fait partie d'un petit parti, mais très influent, qui est le Parti Radical, et qui déjà, depuis des années 70, fait campagne pour légaliser, enfin pour changer les lois sur le cannabis. Donc voilà, donc il n'est pas seul, effectivement, il y a d'autres politiciens, donc à peu près une soixantaine, comme je disais. Voilà ce qu'il dit un peu della Vedova, pardon, il dit, voilà, c'est une proposition qui émane de différents membres du Parlement, provenant de différents partis ou courants politiques. Ça montre que même en Italie, lorsqu'on on adopte une approche pragmatique basée sur une analyse rigoureuse du rapport coût-bénéfice de ce que pourrait être une légalisation, eh bien, quand on parle du cannabis comme ça, ça devient populaire, y compris dans le débat politique et culturel, mais aussi au sein même du Parlement, en fait, et des instances de débat politique. Voilà. C'est pas encore une proposition de loi, dit Monsieur della Vedova, mais il a promis en tout cas que ça le deviendrait très rapidement. Alors, actuellement, en Italie, la marijuana, la possession est décriminalisée. Mais c'est quand même toujours illégal, que ce soit pour du thérapeutique ou du récréatif.
Ouais, je rajouterais qu'en Italie, si je ne me trompe pas, ils l'ont aussi intégré dans le calcul de leur PIB.
Au même titre que le travail sexuel et
voilà, tout à fait.
De trafic, oui, c'est vrai. Ce que nous n'avons pas fait. Voilà.
Nous, la France. Hein.
Oui, oui. J'en étais où ? Oui, donc posséder de petites quantités de cannabis et d'herbes en Italie est désormais passible d'une amende ou de contravention. Ceux qui sont verbalisés en général voient leur permis de conduire, leur passeport retiré temporairement, mais si vous en cultivez, vous pouvez rencontrer et que vous rencontrez la police et la justice, vous pouvez être condamné à de la prison ferme. Voilà, donc c'est de tout ça dont il s'agit et que, en tout cas, ils veulent changer en Italie. Voilà, c'était un article. Alors, c'est un article en anglais. J'ai traduit quelques passages. Ça vient de l'International Business Times. Voilà, c'est de là que vient l'article. Comme quoi, dans des articles, dans des journaux consacrés au business, on peut lire des choses intéressantes qui ne concernent pas que le business.
On sait bien que le cannabis est quand même un business en vogue.
Bien sûr.
Aux États-Unis, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur les rangs pour faire du cannabis.
Tout à fait. Il ne faut pas non plus le réduire à une question de business. C'est ça que je voulais dire. On pourrait lire ce genre d'article dans Le Monde, dans l'IB. Pour l'instant, on n'en a pas vu trace. Voilà. C'est pareil. Il y a un article là qui parle de la Géorgie. J'ai été surpris de voir que l'article venait d'un journal du Moyen-Orient, L'Orient le Jour, qui nous raconte que l'état de la Géorgie aux États-Unis a fait un pas vers la légalisation pour des applications thérapeutiques.
Voilà, ça devient le 24e état sur les 50 états américains.
Tout à fait. Et voilà, et donc j'ai été surpris de lire ça dans L'Orient le Jour, ni dans Le Monde, ni dans l'IB. En tout cas, pas encore. Pas encore. Voilà. Par contre, sur Radio-Canada, sur ICI Radio-Canada, là, on nous parlait de la marijuana bientôt légale, mais dans l'état du Vermont.
Voilà, et donc là, ça serait pas le cannabis thérapeutique, mais ça serait vraiment le cannabis récréatif.
Tout à fait.
À l'instar de ce qui se fait au Colorado ou dans l'état de Washington.
Voilà. Alors, on n'est pas étonné de voir que le Vermont officiellement annonce se mettre sur les rangs des prochains états visant à légaliser le cannabis pour raisons thérapeutiques, récréatives, pardon, puisqu'on en a déjà parlé il y a à peu près un an et demi, mais il faut savoir qu'aux États-Unis actuellement, il y a une trentaine d'États qui songent à changer leur législation d'ici les deux prochaines années, puisque les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2016, au mois d'octobre-novembre, si je ne me trompe pas. Et à chaque fois qu'il y a des élections, à mi-mandat ou présidentielles aux États-Unis, les électeurs sont aussi invités à se prononcer sur des lois ou des dispositions propres à leur État ou à leur comté. En fait, et que c'est dans ce cadre-là que le Colorado a légalisé, puis Washington et l'Alaska pour les élections à mi-mandat. Donc voilà, une trentaine d'États, vraiment, encore une fois, on insiste, la prohibition aux États-Unis s'effondre comme un château de cartes.
Voilà, c'est tout à fait ça, ça évolue très très vite. Alors après, on va voir comment ça se passe au niveau de l'ONU, puisque évidemment, si ça se passe aux États-Unis, il y a toujours les États d'Amérique du Sud, du coup, qui se disent, mais attendez, arrêtez de nous obliger à combattre et à prohiber ces produits alors que vous les légalisez chez vous. Donc ça avance vite, il y a beaucoup de discussions, il y a quelques États qui veulent amener ça au niveau de l'ONU pour faire changer les choses. Bien qu'a priori, parce que là il y a eu Vienne, j'ai pas lu d'article dessus, j'ai eu quelques petits échos de ce qui s'est dit. A priori, ils n'ont pas été très très progressistes cette année, mais
pas à pas.
Mais pas à pas, peut-être qu'on va gagner. En tout cas, voilà, moi je mise, quoi, je parie sur 2017-2018 à l'ONU pour que ça change. Ça dépendra aussi sans doute de nous, les utilisateurs, pour faire entendre notre voix et faire dire que voilà, la prohibition n'amène aucune solution, au contraire.
Tout à fait, tout à fait.
Autre chose à dire sur le Vermont ou...
Non, je pense qu'annoncer, l'annoncer, c'était suffisant. L'article en lui-même n'est pas extraordinairement intéressant. Voilà, bon. Il n'y a pas que le Normal aux États-Unis qui travaille sur la légalisation. Il y a aussi la Rand Corporation, qui est un institut de recherche, voilà, et qui en fait a étudié et réalisé une vaste étude sur la légalisation de la marijuana au Vermont et sur le fait qu'il y a de 68 000 à 100 000 personnes qui consomment régulièrement du cannabis dans l'État. Et le sénateur David Zuckerman, voilà, il dit tout simplement, il s'agit de faire passer un commerce clandestin au grand jour, et du coup, cela en fait un commerce comme les autres qui paie sa part en impôts sur le revenu et en taxes de vente. Ouais, le rapport Rand estime que la légalisation va générer de 20 à 75 millions de dollars par année en revenus de taxation sur la vente de cannabis aux résidents de l'État. Voilà. Bon, en gros, ils font aussi des calculs, un peu comme ils ont fait au Colorado. Ou en tout cas au Colorado, ça rapporte, parce que les lois de l'État prévoient que si l'État a trop perçu, ils doivent redistribuer aux habitants de l'État.
Et ils doivent redistribuer 5 à 6 euros par personne.
Voilà. Mais ils ont déjà versé plus de 2 millions de dollars à des écoles.
Voilà. Donc, ils ont pu relancer justement l'éducation qui n'avait pas assez de budget. Et donc là, l'éducation, je dirais, publique
se repart un peu plus enrichie.
Voilà. Et bien dotée, ce qui est bénéfique parce que.
Oui, parce que comme tu le disais,
une école qui ouvre, une école qui a de l'argent et qui peut faire du bon travail, c'est une prison qui ferme.
Et puis comme tu le disais, les États-Unis, c'est un pays avec des lois, un système régalien, et les écoles ne sont pas financées par les pouvoirs publics. C'est les communautés en fait qui financent les écoles, et du coup, elles ont souvent en manque d'argent. Voilà. Donc. C'est plutôt positif pour les Coloradiens, les jeunes Coloradiens qui vont à l'école. Je sais pas comment on dit. Je suis désolé si j'ai fait une erreur. On va peut-être écouter un petit peu de musique.
J'allais dire, on finit aller sur la petite brève sur la Hollande. Peut-être où là aussi on a une évolution. C'est donc depuis quelques années, vous savez, en Hollande, ils essayent de faire le white pass, donc le pass pour l'herbe destiné uniquement aux néerlandais. Et donc ils l'ont créé quand même pas dans toute la Hollande, mais dans le sud de la Hollande, du côté de Maastricht en particulier. Donc du coup, ben Maastricht, ce qui avait disparu depuis quelques années, c'est-à-dire tous les vendeurs à la sauvette, ben ont réapparu. Tout le trafic et toute la petite criminalité qui allait avec, ben a réapparu. A priori, on n'a pas encore d'écho, mais il semblerait quand même que le fait d'avoir reprohibé le cannabis pour les étrangers dans ces régions a été plus négatif que bénéfique. Mais bon, en tout cas, ceux qui portaient ces sujets au gouvernement ont démissionné récemment.
Bah, notamment, le premier d'entre eux, c'est le ministre de la Justice et de la Défense, Ivo Opstelten, ainsi que son secrétaire d'État, Fred Teeven, qui tous les deux ont quitté leurs fonctions. Et en fait, le pourquoi du comment ils ont quitté leurs fonctions, c'est quand même vachement, vachement intéressant. C'est, alors, je ne vais pas pour le faire court, hein, c'est des c'est une histoire de d'arrestation de trafiquants de drogue, mais pour en arrêter un autre, on a négocié avec celui arrêté pour qu'il récupère une partie de l'argent, de son argent en fait. Et du coup, l'un des ministres a dit que finalement, il lui avait fait une ristourne lui permettant quand même de récupérer 1 200 000 florins, alors qu'en fait, c'était 4 700 000. Alors du coup, ça a fait une petite crise politique et finalement, ils ont démissionné. Voilà. Voilà. Donc voilà, comme tu disais, Opstelten et Teeven, ce sont ceux qui sont à l'origine du White Pass, comme tu disais. L'interdiction de l'accès au coffee shop aux personnes...
Ils avaient renforcé la législation. Avant, les coffee shops avaient le droit d'être à 500 mètres...
d'un établissement scolaire, et après Opstelten, c'était 250 mètres.
Voilà, donc ça a réduit, donc ça...
Mais en tout cas, pas mal de propriétaires de coffee shop, pour pas avoir de problème avec les autorités, avaient instauré comme limite d'âge 21 ans dans leur boutique, pour pas qu'on leur tape dessus. Donc voilà, en tout cas, c'est Opstelten et Teeven qui étaient deux grands prohibitionnistes, ou en tout cas qui tentaient d'encadrer très très strictement le cannabis aux Pays-Bas, ont démissionné, et c'est plutôt une bonne nouvelle.
Voilà, on ne sait pas par qui ils vont être remplacés.
Et ils étaient à l'origine de la fameuse loi sur les gros shops, dont on a entendu parler à Technigro ce week-end. La fameuse loi sur les gros shops ou sur les fabricants de produits dans les engrais qui ne doivent pas communiquer sur le cannabis. C'est pareil, les gros shops ne doivent pas inciter à la culture du cannabis ou à la consommation. Donc il y a eu pas mal de changements en Hollande et beaucoup de grossistes et de fabricants de produits et d'engrais en fait flippent.
Voilà, on va voir comment ça va évoluer. En tout cas, voilà, c'était un article de la Sensicide.
De Sensicide Bank, oui. Sensicide.com qui régulièrement nous fait des articles super intéressants. Quoi. Merci Sensicide. Merci Martin.
Yes. Allez, un petit peu de musique du coup.
Monte la sève, monte la sève. Monte la sève, monte la sève. Elle soulève son trait jusqu'à mes lèvres. Elle m'élève les sens, l'esprit là. Elle m'enlève l'inhibition qui colle à mes semelles de plomb. De plomb, de plomb, de comme le maçon à sa truelle. Les bretons ont de l'hydromel.
Les éboueurs ont leur poubelle, les gros fachos ont leur pucelle. Tel apiculteur qui fait son miel, prend bien soin d'elle car elle est si belle. Pas d'artificiel, non, elle est naturelle. Même si t'es séquent, tu n'auras pas de séquelles. Everybody come, everybody follow me. Everybody come au pays magique de la Saint-Cie. Everybody come, everybody follow me. Everybody come, allez vas-y, roule-toi que si c'est parti. Eh bien parti dans la partie. Oui c'est parti. Eh bien parti dans la partie.
Tartare dans les couloirs de tous les bars ont quelquefois bien des déboires. Alors ils cherchent dans leur mémoire, dans quelle armoire, dans quel placard, cette petite boulette de noir, cet tapis dans le noir. Ouais je sais pourquoi ils sont toujours en retard. C'est qu'ils veulent que chaque instant soit un hectare. Un hectare ou deux, ou trois hectares de deux, sur une colline à Montolieu, ça serait-il pas merveilleux.
Yes, I... Everybody come, everybody follow me. Everybody come au pays magique de la Saint-Cie. Everybody come, everybody follow me. Everybody come, allez vas-y, où sont tous qui c'est parti. Eh bien parti dans la partie. Où c'est parti. Eh bien parti dans la partie.
Passe-moi des gueufs, stuff. Je vais me déchirer, faire la teuf. Putain, des keufs. Ah puis merde, j'en ai rien à treuf. Ça fait 20 biches, tu piches que tu nourris ma parano. Les copéages en âge, m'empresse de planquer mon bédo. Faire serrer par les bleus, feriez fou pour un joint de faux. La police, comment suisse, nous lâche un peu sur le cannabis. Avec l'essayeur, tu pauvre repère, comme t'as chelou, on va se le faire. Fais bailler ton petite mèche, dispense-moi ta mort à la balle. Ouais, je sais, c'est illégal, comme l'absinthe ou la fraude fiscale. Les crétins, qu'est-ce que tu crois? Qu'on a deux qui dans la grosse caisse ou quoi? Quand Yannick Noah, nous on pratique le mine d'or. Une vraie mine d'or. Tous les ans, nous descendons la palme du pied.
Everybody come, everybody follow me. Everybody come au pays magique de la Saint-Cie. Everybody come, everybody follow me. Everybody come, allez vas-y, où tout ce qui s'est parti. Eh bien parti dans la partie. Où c'est parti. Eh bien parti dans la partie.
Pas de bière, pas de shit, nothing to eat. Tu te dépites deep dans ton gîte. Alors quitte ton site, quick vite, avant que tout ne périclite, au risque de te confronter à tes limites.
Car limite c'est miettes et tout c'est frites. Quand l'alcool rattrape le shit, shit. Faut pas en parler maman, shit, shit. Il faut le rouler, le shit, shit. Faut pas en parler non non, le shit. Everybody come au pays magique de la Saint-Cie. Everybody come, everybody follow me. Everybody come, allez vas-y, on va se passer. Un poil dans la main, il est sûr qu'elle nous leur veut. Avec tous les dealers, on leur veut en moins d'eux. On a un poil dans la main, et les yeux nous leur veut. Avec tous les dealers, on leur veut en moins d'eux. On a un poil dans la main, et les yeux couleur bleu. Avec nous les dealers, on leur veut en moins d'eux.
Monte la sève, monte la sève, monte la sève, monte la sève.
Monte la sève, monte le son, monte tout. Bon bref, voilà. Donc c'était Las Patatas Espantadas. Le shit chute.
Voilà. Le shit chute.
Le shit chute.
D'accord. Et puis on a vu, c'était déjà d'actualité il y a 20 ans. Il y avait déjà ces fachos et ils sont encore là malheureusement.
Voire même il y a 20 ans, ils étaient là, mais bon, ils étaient quand même... Enfin, à Lyon, on les voit quasiment plus, quoi. Même s'ils existaient, on savait, bon, bref.
Voilà, mais maintenant, on les voit un peu trop.
Là, hein. C'est autre chose, hein. Ça a quand même changé. Alors que je pense qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'on en serait là aujourd'hui. Hein.
Non.
C'est ça qui est triste. Bref. on va continuer notre revue de presse cannabique de ce lundi 30 mars 2015. Alors, on va s'intéresser un peu... à la BAC, au policier de la BAC, suite à un article du Parisien, de lundi dernier, qui nous parle de 5 policiers de la BAC suspectés de corruption et arrêtés. Et quand on lit l'article,
ah, c'était pas des enfants de cœur. Hein.
On comprend pourquoi l'IGPN était sur le coup, quoi. Hein.
Voilà, donc ils sont suspectés aussi d'avoir intimidé leur supérieur hiérarchique quand même.
Oui, qui était une femme.
Voilà, qui a muté. Eux ont été mutés. Mais l'IGPN a quand même continué le travail sur eux. Et donc, 5 suspects ont été interceptés donc, le 22 mai. Ont été interceptés récemment. Voilà. Mais ça faisait plus d'un an quand même qu'ils travaillaient quasiment dessus.
Voilà, alors juste quand même au niveau des menaces sur la hiérarchie, donc ils auraient quand même menacé leur responsable, enfin leur chef. Crever ses petites voitures. Et y a un des policiers qui aurait même été consulter le fichier de la police pour trouver son adresse personnelle. Donc voilà. Sinon, ils sont impliqués dans des.
Rackets, fausses perquisitions et violences. Voilà, donc rien que l'énoncé des faits, ça vous renseigne un peu. Hein.
Ouais.
Ils créaient des fausses commissions rogatoires, arrivaient chez les suspects, prenaient ce qui les intéressait, repartaient.
Ils modifiaient des scènes de crime également. Ouais.
Voilà. Ils sont allés aussi piquer dans les scellés.
Ah oui, c'est un grand classique.
C'est un grand classique Voilà. Donc bon, hein, en tout cas, voilà, il y a 5, on va voir ce que ça va donner. Hein.
Oui,
puisqu'il y a eu quelques des anciens précédents. Ça aussi, c'est un pléonasme. donc, en octobre 2014, c'était 2 policiers de la BAC du 9-3 qui ont été mis en examen et écroués pour leur participation à des trafics de voitures volées. Et sinon, en octobre 2012, donc c'était la BAC Nord de Marseille. On en avait parlé de celle-là. Donc plusieurs policiers ont été convaincus par l'IGPN d'avoir récupéré cigarettes et stupéfiants lors de contrôles. Voir si je me souviens bien à l'époque, ils étaient soupçonnés aussi d'avoir récupéré le fric sur certains trafiquants. Voilà, mais ça c'est pas dit dans l'article. Bref, en tout cas pour eux, pour ceux de la BAC de Marseille, il y a eu quand même des révocations et des suspensions qui ont été prononcées en décembre 2013.
Oui.
Voilà, donc.
Un communiqué de presse du cirque sur le site du cirque Lyon, www.cirque-lyon.fr, qui traite de ce cas. Voilà. Parce que la prohibition favorise tout ça, malheureusement. Voilà. Ensuite, on va. Une petite brève un peu rigolote, toujours dans le Parisien, du 28 mars. C'est un jeune homme qui, comme c'est dit dans l'article, n'avait pas potassé le manuel du discret cultivateur de cannabis. Et visiblement, il cultivait et ça sentait fort, dans les parties communes notamment. Et du coup, les voisins avaient alerté le commissariat local. Bon, jusqu'ici, pas un article très original, mais alors, le choix de l'article tient surtout à la formulation du journaliste qui, écoutez bien, nous dit que les policiers donc qui sont allés chez le jeune homme ont découvert 2,4 kilos de chanvre de cannabis.
Voilà, donc on se demande, nous, si c'était 2,4 kilos de chanvre de cannabis de hashish ou 2,5 kilos de chanvre de cannabis de marijuana, à moins que ça soit évidemment 2 kilos de chanvre de cannabis d'herbe. Mais bon, de temps en temps, on ne sait plus où on en est.
2,4 kilos de chanvre de chanvre. 2,4 kilos de cannabis de cannabis.
À moins que ce soit du sativa de cannabis de chambre, mais bon.
Voilà,
en tout cas, on remercie Aurélie et celui de ce superbe article.
De cette superbe précision. Bon, ensuite, on va passer à des choses un petit peu plus sérieuses. On pourrait peut-être parler un peu de sclérose en plaques, non ?
Allons-y.
Pourquoi pas ? Alors, un article de santémagazine.fr qui nous parle du sativex et de la sclérose en plaques et que les patients attendent le cannabis thérapeutique. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ils vont parler de patients de sclérose en plaques qui osent parler de leur consommation de cannabis, mais pas de sativex. Mais en fait, non, c'était pas ça. Là. Ça parlait surtout du sativex, effectivement. Donc pourquoi ? Parce qu'en fait, il va y avoir un colloque, le colloque annuel de l'ARCEP. L'ARCEP, c'est une association une association de malades atteints par la sclérose en plaques. Donc il y a un colloque qui va être qui a été diffusé, qui a été organisé, qui s'est tenu la semaine dernière et samedi dernier sur le site de la fondation. On pouvait voir le colloque retransmis en direct de 10h à 12h30. C'était la semaine dernière. Il y avait également le docteur Patrick Hautecoeur, professeur de neurologie à l'Université catholique de Lille, qui animait un atelier sur la douleur lors du rendez-vous annuel de la Fondation pour la recherche sur la sclérose en plaques. Et il se préparait à recevoir de nombreuses questions, et notamment ceux des journalistes. Donc, à qui est destiné ce médicament, ce cannabis thérapeutique? Donc, il nous dit, comme ça, bah, ça s'adresse aux patients souffrant de spasticité diffuse et résistante au traitement myorelaxant habituel. La spasticité, ce sont des crampes et des douleurs au niveau des membres inférieurs qui peuvent gêner la marche. Elle apparaît au bout de quelques années de maladie. Plus de 50% des patients sont concernés après 10 ans. Beaucoup de patients pourront-ils bénéficier du Sativex? Bah, eh bien non, quelques centaines seulement sur 90 000 personnes souffrant de sclérose en plaques en France, hein. Ce médicament est attendu comme un antidouleur et un traitement de fond de la sclérose en plaques, alors qu'il sera réservé uniquement, si j'ose dire en fait, aux patients résistants et sans contre-indication, donc anxiété, troubles de la mémoire et de l'attention. Il y a une grosse attente de la part des patients, mais certains risquent d'être déçus en termes d'efficacité. Le Sativex diminue de 20 à 30% l'intensité de la spasticité, mais si les crampes diminuent et que la personne retrouve de la mobilité, c'est quand même important. Cette attente de la part des patients signifie-t-elle que leurs douleurs ne sont pas suffisamment soulagées? La prise en charge de la douleur est très difficile dans la sclérose en plaques. 40 à 60% des patients ont des douleurs. Celles-ci peuvent être dues à plusieurs facteurs qu'il faut bien analyser. Elles peuvent être liées aux poussées, à un mauvais contrôle de la moelle épinière, à la spasticité ou à de mauvaises postures. Pour chaque type de douleur, le traitement est différent et peut avoir des effets secondaires. Il est important d'en parler en équipe pluridisciplinaire pour trouver le bon produit. Les patients sont dans l'attente d'un traitement efficace et sans effet indésirable, mais le Sativex n'est pas la panacée. Et moi, à ce stade-là, j'ai envie de dire quand même que, on connaît quand même beaucoup de gens qui connaissent le cannabis thérapeutique, et qui nous disent, qui nous ont dit à plusieurs reprises que non seulement le Sativex c'est pas la panacée, mais ce qui marche encore le mieux, c'est une bonne variété de cannabis médical avec un taux de CBD élevé.
Où il y a des
psychotropes dedans,
des résultats miraculeux avec des gens qui passent une soirée en fumant et qui, malgré leur sclérose en plaques, à la fin se lèvent pour accompagner leurs amis comme si rien n'était, alors qu'ils ne bougeaient pas avant qu'ils arrivent et avant d'avoir fumé.
Parce que ce qui se dit pas là-dedans, c'est qu'en fait, l'intérêt dans le cannabis, c'est le mélange des cannabinoïdes, en fait. Et c'est ça procure un effet et ça peut procurer du bien-être aux gens qui sont malades. Mais l'isolation d'un cannabinoïde, comme ça a été le cas pour le Sativex, c'est pas forcément super efficace.
On va revenir là-dessus, parce qu'a priori, il y a de plus en plus de recherches et il y a de plus en plus de gens qui arrivent à isoler justement différents cannabinoïdes, et en particulier le THC ou les CBD, avec des résultats plus ou moins bons. Mais on reviendra là-dessus.
Juste pour finir.
Oui, je t'en prie, sur la sclérose en plaques.
On apprend aussi dans cet article que la Haute Autorité de Santé a demandé le remboursement du Sativex, mais en lui attribuant un service médical rendu faible. Je pense, c'est-à-dire vraiment pour des indications très 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 précises, hein, et uniquement. Sinon, dans d'autres cas, je pense que ça ne sera pas remboursé. On sait déjà qu'il y a des gens qui s'en sont fait prescrire, donc comme il est dit dans l'article, c'est pas vrai qu'il y en aura au début de l'année, enfin qu'il y en aura au printemps 2015. Non, il y en a déjà du Sativex. On connaît des gens qui nous ont dit qu'ils en avaient, qu'ils avaient signé un protocole d'une affection longue durée, qu'ils ont pu se voir prescrire du Sativex, qu'il était remboursé, donc ça c'est plutôt bon signe.
Voilà, pour rappeler, le Sativex c'est le spray sublingual.
Voilà, et pas un spray nasal, comme dit monsieur Constantin, avec toutes les âneries qu'il raconte. Donc forcément, quand on l'utilise mal...
Et qui est un mélange CBD-THC.
Voilà.
Voilà, et juste pour continuer, pour embrayer sur le cannabis thérapeutique, on va parler du syndrome de Jean de la Tourette, ou syndrome de Tourette. Donc c'est un trouble neuropsychiatrique héréditaire qui se manifeste chez l'enfant, qui a des tics physiques et vocaux. Et c'est souvent connu par des gens qui interpellent et qui insultent un petit peu tout le monde. Mais ça, c'est une forme, a priori, du syndrome de la Tourette, puisqu'il y en a quand même voilà, diverses. Et donc là, c'est le Saint-Cécide qui nous rappelle les 6 avantages du cannabis pour traiter ce syndrome-là. Donc, si vous allez sur le net, si vous êtes curieux, vous en tapant syndrome de la Tourette, vous tomberez sur une vidéo où quelqu'un, justement, atteint de ce syndrome, fume et arrive à se réguler grâce à...
Cette vidéo est accessible facilement sur le site du Cirque Lyon.
Vous allez
dans la partie tract, dossier, rapport. Et dans la partie rapport, ou dossier, je ne me rappelle plus, il y a deux vidéos, et une vidéo notamment, une vidéo en allemand d'une émission qui s'appelle Planétopia. C'est en allemand, on ne comprend pas, mais c'est pas la peine de comprendre quand on regarde, on est convaincu.
Voilà, on comprend très bien.
Si vous parlez l'allemand, ben c'est encore mieux.
Et la fin des études. Voilà, donc les 6 choses, c'est que déjà on voit la diminution de la fréquence des tics, ainsi qu'un soulagement des syndromes obsessionnels compulsifs, appelés autrement les TOC, qui diminuent aussi, puisque les gens qui ont ce syndrome de la Tourette ont des manies répétitives comme le comptage, le contact physique ou des comportements autoritaires, ou alors être aussi agressif, etc. Bon, il y a différents TOC, donc là aussi, diminution de ces symptômes. Il y a aussi une efficacité accrue des médicaments conventionnels grâce au cannabis. Ça permet aussi de traiter leur insomnie, puisque le cannabis a aussi dans ses propriétés le fait d'amener un sommeil réparateur. Ça combat aussi l'anxiété, puisque c'est les gens qui ont ce syndrome sont aussi assez anxieux, et ça calme aussi l'agressivité. Voilà un petit peu très rapidement résumé cet article de la Saint-Cécide sur.
Ouais, un autre article super bien de sur la Saint-Cécide par une journaliste qui s'appelle Sechata. Donc les 6 principaux avantages, voilà.
Alors très rapidement résumé.
Très rapidement, oui. Bon, on n'a pas trop le temps de s'y attarder non plus, mais je vous invite à aller sur le site de saintcecides.com. Voilà, vous trouverez l'article à propos du syndrome de la Tourette. Juste pour un peu nuancer un peu tes propos, dans l'article en ce qui concerne l'efficacité accrue des médicaments conventionnels pour le traitement du syndrome, vous lirez, si ça vous intéresse et que vous vous rendez sur le site, que voilà, il y a encore des travaux, des recherches à mener, il y a des des scientifiques qui, eux, ont plutôt considéré que l'utilisation du cannabis était plutôt à déconseiller pour les personnes concernées par le syndrome de la Tourette. Visiblement, le cannabis ou les cannabinoïdes ne convient pas forcément à toutes les personnes qui sont concernées par cette pathologie. Voilà, donc bon, c'est pas non plus... forcément pour tout le monde quelque chose de super efficace. Voilà, bon, c'est encore contradictoire et la science a encore des travaux à faire. Mais encore une fois, je vous invite vraiment à vous rendre sur le site du Cirque Lyon, à regarder cette vidéo. Voilà, la personne que l'on voit et qui est concernée par le syndrome de la Tourette n'est pas non plus forcément représentatif de tous les malades qui sont concernés par cette pathologie, mais en tout cas, ben, ceux qui sont un peu dans son cas et qui peuvent se soigner avec du cannabis,
voilà,
tant mieux pour eux, quoi, parce que c'est spectaculaire quand on
voit. Pour certains nombreux, ça fonctionne.
Voilà, mais après, c'est comme pour tout un tas de maladies et tout un tas de médicaments, hein, ça marche pas forcément sur tout le monde, que ce soit du cannabis ou des médicaments super.
Tout à fait.
Lambda classique, quoi. Voilà.
D'ailleurs, les placebos pour plein de médicaments marchent aussi.
Juste ce qu'il faut de collante. Sa résine.
Eh ben, c'était Billy the Kick, les gamins en folie, avec ma plante.
Ma plante.
Voilà, cette survivante.
Ma plante.
Qui a 2000 ans, voire 3000. Bon, alors.
Là, oui. Qui était une plante, c'est maintenant qu'on synthétise, alors.
Ouais, et qu'on synthétise, je sais pas, mal. Ou pas.
Partiellement.
Pas forcément de manière très intelligente. Donc voilà, ça se passe en Savoie, c'était dans le dauphiné.com le 13 mars.
On vous en a vaguement parlé la semaine dernière et j'étais d'ailleurs très sceptique sur le nom cannabis de synthèse. Parce que pour moi c'était pas ça, ou je comprenais pas ce que c'était. Et a priori justement en discutant avec certains amis à Technigro, hein, pour... a priori, ça serait bien du cannabis de synthèse, donc des gens qui, et la science fait pas mal de progrès là-dessus, et qui auraient vraiment synthétisé juste certains cannabinoïdes, en particulier des cannabinoïdes, des THC, hein, pour ne pas le citer. Et ce produit donc est assez fort, surtout comme il est de synthèse, il est totalement... il n'a pas d'autres cannabinoïdes en même temps, donc il n'y a pas d'antagoniste. Et donc, il y aurait eu quelques excès et quelques accidents. C'est bien comme ça qu'on peut dire les choses.
En tout cas, il y a des lycéens qui en ont pris, qui en ont fumé, hein, parce qu'on parle de fumer un joint à l'extérieur de l'établissement, et qui se sont retrouvés pris d'un sévère malaise et qui ont dû être hospitalisés d'urgence à l'hôpital d'Annecy. Voilà. Et apparemment, il y aurait eu un autre cas d'intoxication du même genre signalé du côté d'Argonnais. Je pense toujours en Savoie ou en Haute-Savoie. Voilà, ils essaient de faire des analyses pour tenter de savoir un peu plus à propos de ce cannabinoïde de synthèse. Bon, voilà, pour l'instant, on ne sait pas, en fait.
Je reste quand même un peu sceptique.
Je pense qu'il faut être sceptique, ouais, on ne sait pas. Dans l'article, l'article est tellement court que on ne sait pas sur quoi il se base pour dire que ça peut être un cannabinoïde de synthèse.
Voilà.
Et si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ça.
Voilà,
c'est comme à une époque,
c'est encore des enfaites quelconques.
Par exemple, non. Puis en plus, c'est comme une époque, on parlait beaucoup du GHB, la drogue du viol, on en voyait partout. Puis un jour, il y a eu une étude qui a montré que la drogue du viol la plus utilisée dans 99% des cas, c'était l'alcool.
Avec
des médicaments éventuellement, mais bon, voilà, par contre très rarement ils trouvaient du GHB, hein.
Tout à fait, oui.
Voilà, donc bon, les fantasmes et les mythes, c'est toujours un peu pareil. Voilà, alors on va pour finir parler un petit peu de Barack Obama. Barack Obama qui c'est un article qui nous vient de bfmtv.com. Barack Obama, qui est un président de la République, qui quand même régulièrement se retrouve interviewé par des journalistes, qui passe sur des chaînes de télé, sur des journaux. Voilà. Ce coup-là, c'est l'inverse. C'est Obama qui a accueilli à la Maison Blanche un certain David Simon, qui est un ancien journaliste et qui est en fait le créateur d'une série particulièrement populaire qui s'appelle The Wire, et dont Obama est un grand fan, nous dit-on. Alors, moi, je ne l'ai jamais vu, cette série. On a parlé plusieurs fois, on m'a dit, mais toi qui t'intéresses aux problèmes de politique, de drogue, il faut que tu regardes cette série, ce que je n'ai toujours pas fait, mais là, dans l'article, effectivement, ça donne un peu envie. Donc, Obama, en tout cas...
Surtout si Obama l'aime, hein.
Ça veut pas dire que c'est bien, hein, je sais rien, mais en tout cas, moi, les gens qui m'en ont parlé, qui m'ont dit que c'était bien, c'était pas Obama. Je ne connais pas Barack Obama, il ne fait pas partie de mes.
Et t'as pas téléphoné
de
la
mes
semaine
proches.
Dernière,
il ne m'a pas téléphoné. Mais en tout cas, Obama a dit que je pense que c'est l'une des meilleures séries de ces dernières années. Voilà. Et The Wire, qui est une série créée en 2002 par la chaîne HBO. Une série unique en son genre, proche du documentaire tant elle est réaliste, nous dit BFM TV. Cette chronique de la lutte contre la drogue à Baltimore est aussi une critique de la politique anti-drogue du gouvernement américain, chacune des 5 saisons décrivant un aspect de la drogue, le trafic de rue, la corruption au sein de la classe politique locale, les médias, etc. Et à l'occasion de cette discussion entre David Simon et Barack Obama, on apprend quand même des choses pas inintéressantes. Enfin, en tout cas, ça traduit un peu la pensée de M. Obama. qui dit comme ça, à propos de la série, voilà, dans la série, vous avez réussi, il s'adresse à M. Simon, à humaniser les acteurs du trafic de drogue, notamment les dealers, qui sont trop souvent dépeints dans les médias locaux comme des personnages sombres. C'est là que le travail que vous avez fait est si important, souligne le président. Ce que la drogue ne détruit pas, la guerre que l'on mène contre elle le met en pièces. Assène de son côté M. David Simon. Il y a une prise de conscience à gauche, mais aussi à droite, que ce que nous faisons est contre-productif. On dépense plus pour les prisons que pour les écoles. Waouh,
voilà.
Moi, je trouve ça énorme. Hein.
Oui, c'est énorme. D'où l'importance de ce qu'on disait en début d'émission sur le Colorado, où grâce à la légalisation, ils ont pu réinjecter de l'argent dans les écoles. Donc le bénéfice est sans doute double.
Voilà.
Pour revenir à je ne sais plus quelle parole, quand on ouvre une école, c'est une prison qui se ferme.
Alors, plus tard dans la discussion, tout à fait, plus tard dans la discussion, on parle aussi de racisme, il faut être clair. Donc, c'est Obama qui d'ailleurs lui-même le commente. Et au niveau de la lutte contre le racisme, Obama, si vraiment il voulait s'atteler au problème, il aurait un boulot monstre, hein, parce que quand on voit ce qui se passe ces dernières années, ces derniers mois.
C'est vrai qu'il se réfère aux années 90.
Oui.
Alors que lui, il n'a rien changé quand même. C'est un des points noirs de son.
Carrément, ouais. Carrément. Enfin, bon.
Comment dire, c'est 4 ans, c'est 2 fois 4
c'est
ans.
C'est bientôt 8 ans de présidence. Alors c'est justement, il dit comme ça. Obama rappelle, comme il l'a observé dans les années 90, l'explosion des incarcérations majoritairement d'Afro-Américains et de Latinos. Et oui, Michel Alexander l'a bien dit, la loi sur les drogues aux États-Unis, elle appelle ça un nouveau Jim Crow.
Tout
voilà,
à fait.
Une loi de ségrégation raciale, faut le dire.
Oui, et il regrette justement de toutes ces incarcérations et du coup tous ces enfants qui ont dû grandir sans père, voilà. Et, voilà.
Grandir sans père, qui ont été incarcérés, ça coûte très cher au niveau des politiques. Puis en plus, on fabrique pas des gens meilleurs en les incarcérant. Puis aux États-Unis, la loi sur les drogues, quand ils se font arrêter, déjà qu'en France la loi est dure et qu'on peut prendre des années, mais aux États-Unis, attention quoi, hein, quelques grammes, si vous êtes chopé par le FBI, vous pouvez prendre 20 ans.
Tout à fait. En tout cas, c'est bien qu'ils le disent, mais ça aurait été mieux qu'ils fassent quelque chose.
Il n'a pas fini son mandat.
Oui, il n'a pas fini son mandat. Il a peu de chances d'y arriver, vu la majorité qu'il a.
Oui, en même temps,
Qu'il est minoritaire.
Il n'a pas lâché les chiens non plus au Colorado, dans l'État de Washington et dans l'Alaska.
C'est vrai.
C'est un moindre bien ou un moindre mal, je ne sais pas. Enfin.
Voilà, moi juste dans la petite minute qui reste, je vais parler de la panique chez les chambriers français.
Eh oui.
Donc c'est la Fédération nationale des producteurs de chanvre, la FNPC, qui n'a pas été en mesure cette année de fournir en semences les chambriers français. En effet, ils avaient que 800 tonnes, donc 800 tonnes de graines de chênevis, et il en aurait fallu 1200 tonnes pour répondre à la forte demande. Donc a priori il y a de la pomme de terre et de la betterave qui est mal partie
en Allemagne.
En Allemagne et dans certaines cultures. Et donc du coup certains paysans ont voulu essayer de se retourner sur le chanvre qui peut se planter en janvier seulement. Et donc, comme il y a eu un afflux de demandes, la Fédération nationale des producteurs de chanvre, qui a le monopole de ce chanvre à teneur très très faible en THC, chanvre et graines qui sont très difficiles à créer, d'autant plus que voilà. Et donc, il y a pénurie en France de ces graines-là.
Il va plus loin parce que la fin de l'article est vachement intéressante.
Je t'en prie.
Ah, d'accord. Donc, deuxième raison, selon un responsable de la FNPC, ce serait aussi du côté des pays de l'Est que se trouverait la seconde partie de l'explication. C'est-à-dire que la plupart des semences, en fait, auraient été vendues dans des pays de l'Est. Pourquoi faire ? Afin de produire des dérivés riches en CBD à des fins thérapeutiques, donc. Et donc, pas du tout pour des raisons agricoles, hein, a priori. Mais du coup une utilisation dérangeante d'après cette même source, la FNPC craignant que les autorités sanitaires ne viennent s'en mêler, déclarer tout ceci illégal. On nous rappelle, donc c'est Ananda, hein, un des acteurs de la production de produits au chanvre en France. Ananda donc rappelle que parmi les dizaines de cannabinoïdes présents dans le chanvre, seul le THC, delta-9-tétrahydrocannabinol, est interdit parce que psychotrope, mais il se trouve être très faiblement concentré dans les variétés de chanvre autorisées à la production en Europe, moins de 0,2%. Selon les analyses menées avec un protocole des plus discutables, nous dit-on. Et oui, ça sera bien qu'on parle de ça un jour. Et oui, parce que les 0,2% de THC, en fait, ils sont là, c'est une fenêtre, en fait, de taux de THC légal. Vers la fin, en fait, quand il est récolté. Mais quelques semaines avant la fin, le taux de THC est plus de 0,2%. Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas trop, quoi. Bon, bref.
D'accord. Bon, bref. En tout cas, ça explique aussi donc les Israéliens ne seraient allés pour créer leur chanvre avec plein de CBD. Si j'ai bien entendu, ils seraient que récupérer le chanvre très textile ou en tout cas très pauvre en THC.
Peut-être qu'ils ont fait d'autres manips et ils ont peut-être mis au point un autre chanvre aussi. Hein, je ne sais pas. Mais après, peut-être que ce chanvre riche en CBD dont on nous parle. Il est peut-être pas non plus suffisamment riche pour être thérapeutique, je sais pas. Beaucoup voilà, de choses qu'on ignore encore. Hein.
Voilà, il y a encore beaucoup de recherches sur le chanvre, comme on le voit, et beaucoup de maladies à soigner, beaucoup de choses. Vivement la légalisation, qu'on puisse réellement avancer et rendre des malades heureux et des gens heureux, justement, uniquement parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent
sans prisonniers
être
libres.
Avec une épée de Damoclès sur la tête, sans parler de ceux qui sont déjà en prison, qui seraient libérés.
Et à qui on pense aussi, voilà.
Allez, ciao c'est à tous.
Petite rappel quand même du Cirque Lyon, BP 93043, 69605, Villeurbanne, CEDEX, si vous voulez nous joindre. 06 11 53 10 07 pour nous téléphoner, et cirque-lyon-log.org pour nous envoyer un petit mail, et www.cirque-lyon.fr. Voilà. Et bientôt, le 2 mai,
voilà, c'est ce que j'allais dire,
la marche mondiale du cannabis, quand même. La marche mondiale à partir de 15h, départ. Hein. Voilà, nous, on y sera à 14h30.
Rendez-vous 14h.
14h30. Départ 15h.
Place Carnot. Et départ à 15h en direction
de la place des terreaux.
Voilà. Allez, ciao à tous.
À la semaine prochaine.
Au 2 mai, au plus tard, et à lundi prochain. Ciao.
Bonne soirée.